danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Allez, danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. On y fait venir des grosses têtes, des gugus et puis des athlètes. On aime bien dans nos bistrots les gens qui ne se ressemblent pas trop. Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos ciboulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'amie Hélène Franco.
Bien, ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je dois dire que j'ai eu l'occasion ces dernières années de faire un certain nombre de réunions publiques sur le thème de la justice. Je dirais jamais dans ce contexte-là, aussi festif, aussi, voilà, bon, je suis même un peu émue, pour tout vous dire, du contexte, et voilà, je vous en remercie encore, et j'espère que je ne vous décevrai pas, que je peux apporter quelques petites choses dont on pourra discuter, évidemment, par la suite. Alors, pour ce qui est de ma présentation, elle va être courte, mais je tiens toujours à préciser, comme disaient nos anciens de 68, d'où je viens, hein, d'où parles-tu, camarade, je crois qu'ils disaient, pour certains, et donc je vais vous dire un petit peu d'où je parle, parce que c'est normal, c'est presque un devoir. Je vais vous parler de la justice, mais je vais vous parler de la justice, effectivement, avec une analyse qui est la mienne, qui n'est pas seulement la mienne, parce que moi j'ai toujours eu, depuis que je suis magistrate, un engagement syndical. J'ai été secrétaire générale du syndicat de la magistrature pendant quelques années, jusqu'en décembre 2008. Et puis j'ai même depuis plus longtemps que cela un engagement politique. Voilà, ben, ça je vous en parlerai en petit comité si vous voulez qu'on en parle, mais ça n'est pas le lieu pour en dire beaucoup plus ce soir. Donc ça veut dire que j'ai effectivement une certaine analyse et tout le monde ici ne sera pas forcément d'accord avec cette analyse. Je le conçois très bien et c'est même la richesse d'une démocratie que de ne pas toujours être en accord avec son interlocuteur. Alors, en revanche, bon, il y a un certain nombre de difficultés quand on aborde le thème de la justice, c'est que c'est d'abord un thème qui est assez galvaudé, hein, il faut le dire, abordé très souvent par la voie médiatique, par les médias de masse, de manière assez, je dirais, insatisfaisante. Mais je pense que si vous connaissez tel ou tel sujet de prédilection, eh bien vous apercevez que tel ou tel média, quand il vous parle de votre sujet, le sujet que vous connaissez, eh bien, déforme, simplifie, et que eh bien, c'est l'une des difficultés ensuite de pouvoir expliquer, pour ce qui me concerne la justice, le système judiciaire, à des personnes comme nous, comme vous, qui pouvons et qui pouvaient avoir affaire à la justice. Voilà. Alors la justice, y a beaucoup de clichés sur la justice est lente, la justice est souvent insatisfaisante pour tout un tas de raisons, et la justice surtout est complexe, complexe à appréhender, c'est vrai, d'abord parce que c'est une institution très ancienne, il faut le dire. Dès avant la Révolution française, il y avait dans ce pays des actes de justice. Hein. C'est-à-dire que pour faire société, il faut un mode de régulation, et que dès avant la Révolution française en France, sur ce territoire en tout cas, eh bien, on s'est dit que le mode de régulation par le droit, hein, pour aller vite, eh bien, ça pouvait être un mode de régulation peut-être plus intéressant que la vengeance privée. Et puis, ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment, ça s'est fait très difficilement. Et il fut un temps très 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 ancien, du temps des Mérovingiens, où lorsqu'un acte était commis, répréhensible, eh bien, tout simplement, lorsque on appréhendait la personne soupçonnée d'avoir commis cet acte, que ce soit un viol, un meurtre, etc., eh bien, on remettait cette personne à la famille de la victime, qui en faisait ce qu'elle voulait. Bon, ça, c'est effectivement la vengeance privée, qui est une forme primitive de régulation, de résolution des conflits. Bon. Et puis, avec le temps, et ça s'est fait à travers des siècles et des siècles, on a bâti quelque chose de beaucoup plus institutionnel. Avant la Révolution, il existait les parlements d'Ancien Régime, qui étaient très insatisfaisants. Pour vous situer les choses, dans les cahiers de doléances de 1789, les insatisfactions, le mécontentement vis-à-vis de la justice est le deuxième sujet, après l'inégalité devant l'impôt et le poids des impôts, etc. Mais le deuxième sujet qui vient juste après les impôts, c'est la question de la justice. La justice n'est pas juste, voilà ce qui revenait sans arrêt dans les cahiers de doléances. C'est très très simple, et il n'y a pas d'égalité devant la justice. Voilà. Et c'était un sujet d'insatisfaction très profonde. Il faut vous dire que les parlements d'Ancien Régime, moi je ne suis pas universitaire, encore moins historienne, mais j'ai un petit peu lu ici ou là, il faut vous dire que les parlements d'Ancien Régime étaient plus réactionnaires, pour employer un terme moderne, que le roi lui-même. Hein. C'est-à-dire, souvent, le pouvoir royal était susceptible, ça dépendait du roi, d'avancer dans un certain nombre de voies un petit peu novatrices. Et puis, c'était les parlements d'Ancien Régime hein, qui, de leur propre chef d'ailleurs, pondaient des décisions de justice qui freinaient toute évolution possible. Bon. Donc, on arrive à la Révolution, et on arrive évidemment à des révolutionnaires qui sont très hostiles, ce qui peut tout à fait se comprendre, à l'institution judiciaire telle qu'elle existe à ce moment-là. On connaît une période d'élection des juges, etc. Bon, tout ça, c'est pour situer un petit peu, parce que je pense toujours que pour appréhender un sujet, il faut toujours prendre un petit peu de recul sur les choses et savoir d'où on vient, hein, permet aussi peut-être de réfléchir à où on veut aller. Bon. Donc, très rapidement brosser cette genèse, en quelque sorte, du système judiciaire. Il faut vous dire aussi que lorsqu'on appréhende le sujet de la justice, eh bien, on parle à la fois d'une institution qui s'est créée, encore une fois, avec beaucoup de temps, beaucoup de zigzags, pas de manière linéaire, beaucoup de chamboulements historiques, mais on parle d'abord d'une institution. Et on parle d'abord, et je dirais sur un pied d'égalité pour le coup, d'une vertu. C'est, les anciens avaient fait de la justice une vertu. Il avait même incarné, il y a des statues qui représentent la justice. Et la justice, c'est être juste dans le langage courant, c'est une vertu. C'est quelque chose qui se fait certes par le raisonnement, certes par une analyse, hein, mais c'est aussi un comportement, être juste. Bon. D'ailleurs, le petit badge, là, le dit bien, juste ou pas juste. Voilà. C'est quelque chose qu'on a, une question qu'on a à se poser assez fréquemment dans le quotidien, hein, qu'on vit. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ? Du point de vue, tout simplement, de la justice sociale, de la justice tout court, de l'égalité de traitement, etc. Donc, la difficulté, évidemment, c'est de concilier institution et vertu. Parce que, ou valeur, si vous voulez, pour parler de manière plus moderne. Parce que, eh bien, une institution, c'est fait d'hommes et de femmes, avec tous leurs défauts, avec leurs intérêts divers et variés, avec leurs ambitions diverses et variées, etc. Et donc, on a une source, en quelque sorte, d'imperfection, toujours, dans une institution. Une institution est d'abord et avant tout humaine. Bon. Et une valeur, une vertu, eh bien, se concilie mal, se marie mal avec l'idée d'imperfection. Voilà. Donc, on a un idéal et une institution. Et la difficulté, c'est de rendre l'institution vertueuse, pour parler vite. Bon. Alors, pour ce qui est du sujet du jour, hein, puisque j'avais suggéré qu'on puisse parler de la justice en termes de grand bond en arrière, bon, on dirait que ce n'est pas très réjouissant. C'est pourtant ce que nous vivons, nous magistrats. Et quand je dis nous magistrats, ça va bien au-delà, vous voyez, des râleurs du syndicat de la magistrature, pour aller vite, ou des râleurs tout court. Il y a des gens qui se mettent à râler et qui n'avaient pas du tout l'habitude de râler. Y compris, d'ailleurs, chez les hiérarches judiciaires, parfois, moi, j'ouvre des yeux comme ça en me disant, mais un tel commence à être critique, c'est vraiment que là, il y a le feu à la maison. Bon. D'abord, il faut que vous compreniez que la justice, comme je le disais, est assez complexe. Elle n'est présentée dans les médias de masse que sous l'angle répressif. Hein. C'est-à-dire, quand on parle de la justice, on parle de la justice pénale dans les médias. Hein. On vous parle très, très, très peu de la justice civile, des litiges d'ordre civil, de personnes qui se disputent un terrain, par exemple. Bon. Beaucoup plus couramment encore, les questions d'affaires familiales, le divorce, pension alimentaire, les gardes d'enfants, etc., etc. Tout ça, c'est du civil. On ne reproche rien aux personnes qui divorcent. On reproche encore moins quelque chose aux enfants, etc. Donc tout ça, c'est du civil. Ce sont des litiges entre des personnes privées. Et le mode de régulation par le droit nécessite qu'il y ait effectivement des décisions qui soient prises, alors même qu'on ne reproche aucun méfait, hein, pour parler très clair, on ne reproche aucun méfait aux personnes qui viennent divorcer, par exemple. Bon. Eh bien, il faut que vous sachiez que cette justice civile, donc, c'est plus de 60% déjà des décisions de justice. Voyez, donc, on arrive à un pourcentage très important des décisions de justice dont on ne parle jamais, en fait, publiquement, qui ne sont donc pas vraiment soumises au débat démocratique, hein, et donc ne sont éventuellement soumises au débat démocratique, bien qu'il soit insatisfaisant de mon point de vue sur cette question, que moins de 40% des décisions de justice. C'est celle qui concerne effectivement le pénal, donc les affaires qui engagent des délits, des crimes reprochés à telle ou telle personne. Alors, dans la justice, il faut que vous sachiez qu'il y a un ministère public, il y a donc des procureurs, un parquet, comme on dit, qui est différencié du siège, des juges. Hein. Donc, dès que vous entendez procureur, ça veut dire que il fait partie du parquet et qu'il faut que vous le sachiez, le parquet n'a pas de statut d'indépendance. Hein. Il a un statut de dépendance vis-à-vis du gouvernement directement. Et ça a été renforcé d'ailleurs par la loi du 9 mars 2004, c'est la loi Perben 2, hein, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait rentrer pour la première fois, c'était la première fois dans l'histoire de France, en tout cas récente depuis 1945, c'était la première fois que le ministre de la Justice, en tant que tel, rentre dans le code de procédure pénale et qu'on dit, voilà, le parquet est une pyramide, et tout en haut de la pyramide, au sommet, il y a le ministre de la Justice. Bon. Donc maintenant, c'est noir sur blanc, les choses sont dites. Voilà. Alors, avant, effectivement, il pouvait y avoir des pressions, il pouvait y avoir des choses qui n'étaient pas dites. Maintenant, c'est dit. Et je peux vous assurer que ça prend corps dans les affaires, on va dire, les plus sensibles politiquement. Voilà. Bon. Bon, on pourra en parler tout à l'heure. Vous avez tous en tête un certain nombre d'affaires qui peuvent défrayer la chronique. Alors, sur le statut du parquet, hein, ils n'ont pas de garantie d'indépendance, mes collègues du parquet. Moi, je ne suis pas au parquet, vous l'avez compris. Je suis au siège. Je suis juge moi-même. Je suis vice-présidente. Donc ça veut dire, quand vous entendez président, vice-président, juge, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ce sont des personnes qui sont au siège, hein, parce que nous sommes assis à l'audience, tandis que le procureur de la République se lève pour requérir à l'audience. C'est pour ça qu'on dit le parquet et le siège. Hein. Le siège, eh bien, a des garanties fortes d'indépendance, y compris dans nos modes de nomination, puisque nous, au siège, nous sommes nommés sur décision du Conseil supérieur de la magistrature et le gouvernement ne peut pas contourner cette décision du Conseil supérieur de la magistrature. Tandis que pour mes collègues du parquet, qui sont pourtant magistrats comme moi, hein, puisqu'il y a une seule et même magistrature, mais avec deux régimes différents, eh bien, mes collègues du parquet, eux, sont nommés après avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais sur décision du gouvernement qui peut contourner l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, ça n'est pas que quelque chose de totalement farfelu, ce que je vous dis, ça prend corps hein, dans notre manière de fonctionner. Et évidemment, quand tel ou tel procureur de la République, suivez mon regard, vous dit « je fais appel, mais je n'ai pas reçu d'ordre pour le faire », c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas exclure le zèle. Ça peut arriver. Alors, sur la question de l'architecture de la justice, ce qu'il faut que vous reteniez, à mon avis, c'est quand même qu'il y a, on va dire, l'avant et l'après 1945. Pourquoi ? Parce que, d'abord, depuis 1945, sont apparues au moins deux fonctions judiciaires spécialisées, que sont les juges des enfants et les juges de l'application des peines. J'y reviendrai un petit peu dans le détail, si vous voulez. Et qu'il y a, depuis 1945, en tout cas, je dirais jusqu'aux années, allez, peut-être 90, bon, d'autres sont plus généreux et mettent une césure à l'année 2001, hein, parce qu'il y a eu plusieurs césures, comme je vous le disais, l'histoire n'est pas linéaire. Mais en tout cas, de 1945 jusqu'à plusieurs décennies après, eh bien, tout simplement, on vivait sur l'idée qu'il y avait une responsabilité collective de la société sur les décisions qui étaient prises et qu'il y avait une responsabilité de la justice sur les décisions qui étaient prises. et que la justice ne devait pas s'arrêter uniquement à l'aspect sanction, mais devait s'occuper des conséquences de ces décisions. Et ce qui unifie un petit peu les deux fonctions dont je vous parlais, juge des enfants et juge de l'application des peines, c'est ça. C'est que on a l'idée que le temps est important, que la justice se doit de mettre en œuvre des mesures, même après être passée, pour faciliter la réinsertion des personnes, fussent-elles condamnées, et notamment si elles sont condamnées. Donc faciliter la réinsertion, ça veut dire tout de suite prendre en compte le parcours, les facultés des personnes, leurs besoins, et puis l'idée de suivi, hein, de suivi assez long, sur le long terme, des personnes. Bon. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. Si on prend l'exemple de la justice des mineurs, comme on dit, vous aviez en 1912 eu une tentative très circonscrite, puisque c'était uniquement dans le territoire de la Seine, dans le département de la Seine, donc c'était Paris à l'époque, une sorte de mise en expérience, hein, des tribunaux pour enfants. Bon. Mais c'était embryonnaire, c'était uniquement Paris, et c'était très, très embryonnaire. Mais la vraie prise en compte, évidemment, de la question de l'enfance, et notamment de l'enfance délinquante, des enfants qui commettent des actes de délinquance, c'est 1945. Et vous avez cette ordonnance, tellement décriée par certains, qui fonde encore, et j'espère encore pour quelque temps, notre droit, hein, qui est l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante. Que dit cette ordonnance ? Elle dit que, d'abord, un enfant n'est pas, ça c'est pas littéral, mais l'esprit est là. Qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature. Voilà. Voilà déjà l'esprit. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. En découle un certain nombre de choses en droit dont je vais vous parler rapidement. Et en découle surtout un exposé des motifs. Hein, c'est-à-dire l'exposé des motifs, vous savez, dans une loi, c'est le chapeau où le législateur, celui qui a écrit la loi, ou le projet de loi, explique pourquoi il l'a écrit, dans quel esprit il l'a écrit, et qu'est-ce que veut dire sa loi. Donc c'est un texte, en tout cas à l'époque, c'était très littéraire, presque parfois poétique, et vous avez des phrases tout à fait confondantes pour un certain nombre de nos contemporains. Dans cet exposé des motifs de 1945, je vous en citais deux de ces phrases. Mais restez assis, parce que sinon vous risqueriez de tomber, parce que vous les avez jamais entendues, voilà, en tout cas diffusées sur des médias d'importance. Première phrase. La France n'est pas assez riche d'enfants pour en négliger un seul. Voilà. Donc je vous laisse là un petit silence parce qu'il faut quand même bien mesurer ce que ça signifie. La France n'est pas assez riche d'enfants pour en négliger un seul. On est en 1945. C'est un pays à genoux. Hein. On a affaire à un pays en ruine. Un pays en plus qui connaît énormément d'orphelins. D'orphelins transitoires. Ils vont parfois retrouver leurs parents, mais d'orphelins tout court, des gosses qui sont errants, qui sont victimes des bombardements, qui ont été victimes de privations, et dont les parents peuvent avoir été déportés, etc. Bon. Donc on a affaire à cette société en ruine qui peut dire cela. Hein. La France n'est pas assez riche d'enfants pour en négliger un seul. Ça veut dire que l'ensemble de la société se reconnaît un devoir à l'égard de chacun de ses enfants. C'est assez fort. Hein. Quand on dit la France, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les parents, ce n'est pas, vous voyez, c'est pas comme maintenant où on stigmatise forcément si les parents étaient ci et si l'école faisait ça. Bon, voilà. Donc la France, c'est l'ensemble de nous tous qui formons société. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase est encore plus énorme. Je vous la livre telle quelle. Le gouvernement provisoire de la République française, à l'époque, on n'avait même pas encore rétabli véritablement la République, le gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement l'ensemble des enfants. Virgule, et plus particulièrement les enfants délinquants. J'invente rien, je vous le dis de mémoire, parce que je le connais par cœur, évidemment. Mais vous pouvez le vérifier, puisque tout ça est accessible maintenant assez facilement. Donc, vous avez l'idée de co-responsabilité éducative, de la société à l'égard de l'ensemble des enfants, et vous avez l'idée de protection de tous les enfants, et particulièrement des enfants délinquants. C'est tout à fait... je sais pas, celui qui dirait ça à une heure de grande écoute, je pense qu'il risquerait l'hôpital psychiatrique. Vous voyez ? Non mais franchement, je vous assure. Bon. Là, ça va, on est en petit comité, mais c'est assez lourd comme phrase et comme projet de société surtout. Alors, vous avez ensuite dans le corps l'ordonnance déclinée, cette fois juridiquement, ces principes-là, avec la spécialisation des juridictions, donc des tribunaux spécifiques pour les enfants, des cours d'assises, etc. Bon, voilà. Les juges des enfants sont des juges spécifiques, spécialement formés, et avec un droit spécifique à leur disposition, et notamment l'idée que quand on doit appréhender, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'un enfant pour qu'il commette tel crime ou tel délit, eh bien, on doit d'abord se poser la question de l'éducation. Voilà, c'est ça. Vous avez à peu près tout est là. Hein, c'est l'idée que les mesures éducatives doivent primer sur les mesures répressives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures répressives. Dès 1945, on prévoit les prisons, les trucs, bon, pour les enfants. Mais ça veut dire que ça doit être second. Ça doit être la deuxième et même la troisième intention, voilà, par rapport aux mesures éducatives, de suivi, de compréhension du parcours de l'enfant, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit « Oui, mon cher petit, je comprends bien, tu as été très malheureux. » Non, c'est pas ça. L'éducation, c'est de dire un certain nombre de choses, de donner un certain nombre de repères, mais c'est effectivement d'aller vers autre chose que l'idée d'enfermement, que l'idée de répression pure et simple. Bon. Donc ça, c'est 1945, ça se met peu à peu en œuvre. Et puis, dès 1958, vous avez l'idée, c'est pourtant le pouvoir gaulliste, hein, pouvoir de droite, qui de Gaulle vient de revenir, en décembre 58, vous avez une ordonnance sur l'assistance éducative. Qu'est-ce que l'assistance éducative ? C'est la protection de l'enfance. Ça veut dire la protection de tous les enfants, qu'ils soient délinquants ou non. Ça veut dire également que dans nos bureaux de juge des enfants, on voit parfois des nourrissons jusqu'à des grands adolescents. Hein, des adolescents, ils peuvent avoir 17 ans, 17 ans, 3 quarts. Et puis éventuellement d'ailleurs, mais tout ce que je vous dis est remis en cause de manière frontale aujourd'hui, éventuellement on peut même prendre des mesures de protection pour les jeunes majeurs, quand ils sont d'accord, jusqu'à 21 ans. Bon, tout ça, c'est des mesures de suivi civil. C'est-à-dire, on ne reproche rien spécialement à tel ou tel enfant, évidemment un nourrisson, ça n'aurait aucun sens. Simplement, on constate qu'un enfant, quel que soit son âge, est en situation de danger. Voilà, c'est ça qui fonde l'intervention du juge des enfants en assistance éducative. C'est le danger. Les situations de danger peuvent nous être signalées par l'école, par des médecins, par les assistantes sociales, mais aussi par telle ou telle personne privée qui a pu constater que tel ou tel enfant était en danger. Et c'est à nous, d'abord, de vérifier qu'il y a bien situation de danger, et si oui, de prendre des mesures de protection adéquates. Ce qui est intéressant dans l'ordonnance de 1958, c'est là encore ce qui précède, c'est-à-dire les débats parlementaires. Hein, tout ça est aussi accessible, parce que, heureusement, nos parlements gardent tout cela précieusement. Et dans les débats parlementaires de 1958, vous avez cette idée phare que la meilleure prévention de la délinquance, c'est la protection de l'enfance. Voilà. Tout est là aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est l'idée que lorsqu'un enfant va bien ou va pour le mieux, hein, il a moins de risques de commettre des actes de délinquance. On ne peut pas dire que c'est pas, le risque zéro n'existe pas, évidemment. contrairement à ce qu'on vous dit, à longueur de chaîne de radio, de chaîne télévisée, mais c'est l'idée que quand un enfant va bien, eh bien, il a moins de risques de commettre des actes de délinquance. Et ça veut dire que le corollaire, c'est que si on fait une loi, c'est la société qui, là encore, se reconnaît une responsabilité dans le fait qu'un enfant aille bien ou mal. Ce n'est pas dire toute la responsabilité, ça veut dire une part de responsabilité. Et ça veut dire que la société aussi met en œuvre des mesures de protection, de suivi, d'aide, de soutien aux enfants en difficulté, justement pour éviter qu'ils commettent des actes de délinquance. Et puis, ensuite, les mesures de protection à travers le temps, si vous voulez, ont pu évoluer. Et notamment l'idée que, tout simplement, il faut protéger les enfants, parce que même sans parler de délinquance ou de risque de délinquance, ce sont des enfants, des êtres en construction, et qu'à ce titre, pour en faire des adultes qui tiennent la route, enfin, qui tiennent debout, en quelque sorte, hein, qui soient des êtres construits ou le mieux construits possible, étayés, eh bien, la société doit aussi, à travers la justice, prendre des mesures de protection lorsque c'est nécessaire. Alors, les sources de danger, elles sont multiples. Hein. Ça peut être des enfants dont les parents ne vont pas bien, dont les parents sont alcooliques, dont les parents ont des difficultés de toutes sortes, en fait, hein, mais très importantes, de telle sorte que leurs parents ne sont plus en mesure de les protéger. Voilà. Ou alors, ça peut être aussi des grands adolescents qui peuvent être anorexiques, suicidaires, etc., etc. Contrairement à ce que dit notre actuel président de la République, le suicide des jeunes, à mon sens, n'est pas génétique, mais je ne veux pas braver notre majesté en le contredisant, mais je crois pouvoir dire, après quelques années d'expérience, que je ne vois pas la génétique dans tout cela. Toutes ces situations, eh bien, le juge des enfants doit appréhender l'ensemble du parcours pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Et il faut vous dire que la part d'activité pénale, c'est-à-dire quand un enfant a commis un acte de délinquance, c'est là encore moins de 40% de l'activité d'un juge des enfants, en moyenne. Hein, et que tout le reste, c'est des mesures de protection. Pourtant, vous n'en entendez jamais parler non plus à la télé. Bon. Avec quand même un pays, le nôtre, où il y a 2 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté, où il y a, là encore, un taux de suicide des 15-25 ans tout à fait important par rapport au reste de l'Europe. Enfin, voilà. Mais tout ça n'intéresse pas, visiblement, en tout cas, nos médias de masse. Bon. C'est dommage, parce que là, pour le coup, on est peut-être dans des vrais sujets de société, à mon sens, hein. Si tant est que ça soit appréhendé autrement que par le fait divers, l'exceptionnel, le machin. Donc ça, c'est pour ce qui est de la philosophie de 1945-1958, et je vous dis jusqu'au début des années 2000, quoi. Les choses ont fonctionné de cette manière-là. Et puis, 1958, vous avez aussi la création du juge de l'application des peines, avec cette même philosophie, hein, qu'il faut s'occuper des personnes sur le long terme et dès après la décision de justice. Et puis permettre aussi à quelqu'un de revenir dans la société et de revenir en homme libre, évidemment avec éventuellement un étayage, un soutien, un suivi, etc. Mais avoir pour priorité et perspective première la réinsertion des personnes. Voilà ce que ça veut dire, la création d'un juge de l'application des peines. Bon. Tout ça s'est construit, là encore, avec beaucoup de réflexions derrière, beaucoup de peines, sans jeu de mots, beaucoup de difficultés. Bon. Mais enfin, on pensait que c'était au moins quelque chose d'acquis, qu'il était de l'intérêt de la société, par exemple, d'avoir une justice qui permette au mieux la réinsertion des personnes. Bon. On a depuis... je ne veux pas faire de politique politicienne, hein, c'est pas ça, mais depuis le début des années 2000. Voilà, hein, oui, donc ça concerne aussi la fin du gouvernement de gauche, du gouvernement Jospin. On a un retournement idéologique complet, évidemment accéléré de manière très importante ces deux dernières années, qui consiste en fait à d'abord gommer l'idée de co-responsabilité de l'ensemble de la société à l'égard de chacun de ses enfants, mais aussi à l'égard de chacun de nous, hein, de mettre en avant l'idée première de responsabilité individuelle. Hein, donc chacun est entièrement responsable de ses actes. Et puis même au-delà, d'ailleurs, parce que si on prend un autre domaine que la justice, vous avez pu suivre que les franchises médicales, on reproche presque aux gens d'être malades, vous voyez. Donc ça va très loin, cette idéologie. C'est pas seulement la justice qui est concernée. Donc chacun est responsable, point. Voilà. Et tout le reste est baliverne, et pourquoi on suivrait des gens, et qu'en plus, des fois, ils récidivent. Bon, on pourra parler aussi de la récidive, puisqu'on entend toutes sortes de choses extravagantes sur la question de la récidive, mais... c'est un sujet à part entière. Donc, responsabilité individuelle, voilà, première et dernière. Et puis tout le reste, ça n'est que discours d'assistante sociale.
Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau. Et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau. Et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien. Et jamais...
Alors, évidemment, ça prend corps dans un certain nombre de choses que je vous dis. Depuis... un certain nombre d'années, d'abord on a au plan pénal une extension tout à fait considérable du champ punitif, j'appelle ça moi. C'est pas l'extension du domaine de la lutte, vous voyez, comme disait Houellebecq, c'est l'extension du domaine punitif. Voilà. Vous avez la création de nouveaux délits, de nouvelles infractions, c'est-à-dire que c'est quand même, on va dire, un pouvoir tout à fait énorme et légitime d'ailleurs. Du législateur, c'est-à-dire des députés et des sénateurs qui sont élus, que de décider que du jour au lendemain, des comportements qui ne relevaient pas du champ pénal, eh bien le lendemain vont relever du champ pénal. Bon, vous avez toutes sortes d'exemples, l'entrave à la circulation dans les halls d'immeubles, la mendicité agressive, le racolage passif. Vous aviez, sous Daniel Vaillant, déjà en 2001, la fraude habituelle dans les transports publics. Donc là, c'est au bout de 10 trajets non payés. Boum, c'est tribunal correctionnel. Bon. Alors, à chaque fois qu'on crée un délit, parce qu'on crée un délit, en fait, d'abord, on nourrit les statistiques de la délinquance, ce qui n'est pas négligeable, parce que si du jour au lendemain, on vous dit qu'il est interdit de boire de la bière... Vous aviez l'habitude de boire de la bière, si vous buvez de la bière, vous rentrez dans le champ des délinquants. Ah oui, c'est comme ça. Et puis, on voit très bien aussi que tous les délits que je vous ai dit, là, eh bien, ciblent une partie de la population. Très précise. C'est-à-dire que je n'ai pas vu apparaître de nouveaux délits en matière économique et financière ces dernières années. Il n'y en a pas eu. Ça pourrait exister. Matière aussi de pollution, par exemple, on pourrait imaginer. Bon, tout ça n'est pas du tout à l'heure du jour. Donc, mendicité agressive, vous comprenez que c'est quand même pas les gens les plus riches de nos sociétés qui mendient, même de manière agressive. Entrave à la circulation dans les halls d'immeubles, c'est pas non plus les gentilles dames de plus de 75 ans qui sont visées et qui peuvent éventuellement papoter dans leur hall d'immeuble au retour des courses. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc on est sur le ciblage de populations parmi les plus défavorisées. Donc c'est pas, bon, je le dis avec le sourire, puis bon, c'est voilà, mais c'est pour que les choses aussi puissent être discutées après, mais c'est quand même assez important et évident en tout cas pour nous praticiens, hein, que de voir que toutes ces dernières lois visent très précisément des populations parmi les plus défavorisées et sous l'angle punitif uniquement. Vous pouvez avoir des choses extravagantes, vous pouvez avoir, moi je l'ai vu, je l'ai vécu, des prostituées mineures. Bon. En tant que juge des enfants, il y a d'ailleurs toujours une loi en vigueur qui vous dit qu'ils doivent être protégés, parce qu'ils sont en danger, évidemment, puisqu'ils sont prostitués. Donc, c'est pas non plus une vie extraordinaire pour un gosse. Et puis, vous avez de l'autre côté, la loi du 18 mars 2003, dite loi de sécurité intérieure, promue par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui vous dit très précisément cette loi que racoler, même passivement, hein, est susceptible de poursuites pénales. Et on ne dit pas, mais les enfants sont exonérés, etc. Donc, vous avez comme ça une appréhension de population en très grande difficulté sous l'angle uniquement punitif. Et qu'est-ce qui se passe? Ben évidemment, ces populations-là vivent d'abord dans la trouille, dans la méfiance très importante des institutions, de la police, de la justice, etc. Et donc, ça rend encore plus difficile le travail des médecins, par exemple, en matière de prévention. Voilà. Bon. Vous voyez, quand il y a une loi qui est votée, il ne faut pas vous dire « Ah, bah, de toute façon, on s'en fout, puisque ça ne sera jamais appliqué, puisque bon, ça concerne tellement peu de gens. Bon. » Non. Je crois que c'est important de se dire que c'est quelque chose qui dessine, en quelque sorte, c'est comme un puzzle, ça dessine un modèle de société. Alors, soit ce modèle de société nous convient, puisque dans le fond, nous, on n'est pas en difficulté, on n'a personne en difficulté autour de nous. Il n'y a pas de souci, les gosses ils sont casés, bon, voilà. Hein. Puis on se dit, hein, ceux qui dévient, ceux qui trébuchent, ceux qui font les cons, bon, bah, c'est normal qu'à un moment, ils payent, et qu'ils payent fort, et qu'ils payent le prix cash. Mais quand je vous parlais de prévention, par exemple sous l'angle médical, pour ce qui est de la prostitution, ça peut commencer à concerner plus de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un modèle de société que l'on veut, ou que l'on refuse. Moi, je le dis, je le refuse. Voilà. Mais après, les citoyens sont libres, responsables, et normalement, ils ont les moyens de s'informer. Alors, sur... quand je vous disais 58, donc, l'ordonnance sur l'assistance éducative, la phrase phare, c'était « la meilleure prévention de la délinquance, c'est la protection de l'enfance ». Vous avez l'exact pendant de cette phrase prononcée par Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, c'est pas un acharnement. Hein, je trouve qu'il joue un petit rôle en ce moment. En octobre 2006, il n'était pas président de la République. Il était ministre de l'Intérieur. Et il promeut à ce moment-là la loi dite prévention de la délinquance. Vous savez, c'est cette loi qui permet, qui oblige même... Et en l'occurrence, les travailleurs sociaux, hein, l'ensemble des travailleurs sociaux, a donné aux maires des communes des informations qui, auparavant, étaient couvertes par le secret professionnel. Bon, ce qui veut dire très clairement qu'un travailleur social qui dépend pour vivre d'une mairie, d'une commune, ou même du conseil général, va avoir peu de moyens pour dire « Ah ben non, je ne donne pas cette information-là ». Donc, il y a cette pression sur les travailleurs sociaux pour donner des informations confidentielles, autrefois couvertes par le secret professionnel, aux maires, aux élus. Ça veut dire, par exemple, au hasard, que quelqu'un qui sort de prison, qui va vouloir chercher un logement, il n'a pas toutes les clés dans sa poche, c'est sans jeu de mots aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que... ça va être quand même un peu plus dur pour lui que pour certaines autres personnes ayant un salaire de 4000 euros ou plus par mois. Voyez, parce qu'il va d'abord aller voir l'assistante sociale du secteur, le CCAS, hein, dans les communes, c'est le CCAS, Et puis cette assistante sociale devra rendre compte au maire de la commune de la situation de cette personne-là qui sort de prison. On n'a pas tellement envie. Donc, a priori, dans certaines communes, le dossier sera plutôt mis en dessous qu'au-dessus. Vous voyez, parce qu'il y a, aussi cette possibilité-là, hein, de ne pas forcément booster un dossier par rapport à un autre. Bon. Ça, c'est pour vous situer un peu la loi dite prévention de la délinquance, parce que c'est parmi les lois qui ont un petit peu fait parler d'elle, pas beaucoup, pas à la hauteur, à mon avis, de ce que ça méritait, mais enfin, c'est quelque chose qui a pris corps, si je puis dire, qui est entré en vigueur, pour finir en 2007, en mars 2007, hein, 5 mars 2007. Bon, là, on est en octobre 2006. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, présente cette loi. Il y a beaucoup d'autres choses dans cette loi. Hein. Il y a notamment des dispositions beaucoup plus répressives à l'égard des enfants, des mineurs, délinquants. Et dans, dans ce discours, que vous pourrez retrouver aussi, devant le Sénat, Nicolas Sarkozy dit cette phrase que je vous livre. La meilleure prévention de la délinquance, c'est la sanction. Alors, si vous voulez, là, non mais je crois que c'est... Bon, c'est pareil, si vous voulez, comme on est... dans une guerre des mots, hein, moi j'appelle ça comme ça, il faut toujours disséquer les mots qui nous sont projetés, hein, pour savoir exactement ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui ne fait pas gaffe, cette phrase, bon, meilleure prévention de la délinquance, c'est la sanction, oui, bon. C'est vrai que, non mais, bon, on a tous des enfants autour de nous, donc on sait, un gosse qui fait un caprice, etc. Et à un moment, on va lui dire une fois, deux fois, puis à la troisième fois, on va lui dire, bah écoute, non, là, franchement, t'es allé trop loin, t'es privé de télé, t'es privé de je sais pas quoi, de PlayStation. Bon. Donc c'est une sanction, c'est une forme de sanction. Donc l'idée qu'on puisse sanctionner, par exemple, un enfant, ne nous choque pas, ne me choque pas. Hein, si on s'arrête là. Mais on n'a pas tout dit à ce moment-là. Parce que quel type de sanction, hein, et puis surtout, sur l'ensemble de la phrase, regardez ce que ça veut dire. La meilleure prévention de la délinquance, c'est la sanction. Moi, j'en ris moi-même, parce que je trouve ça d'une énormité absolue. Quand on travaille dans le domaine de la prévention de l'alcoolisme, admettons, ou de la toxicomanie, on a réussi son métier lorsqu'il y a moins de toxicomanes, lorsqu'il y a moins d'alcooliques. Alors, quelqu'un qui dirait... Je travaille dans le domaine de la prévention de la délinquance. Je vais sanctionner avant que l'acte se commette. Parce que c'est ça, hein, c'est... Et prévention, ça veut dire avant. Donc ça veut dire sanctionner avant que l'acte soit commis. Et ça veut dire que là, on est dans une autre, là encore, dans une autre logique de société. On est dans, vous avez vu ce film-là, Minority Report. Vous vous souvenez de ce film, bon, j'ai vu moi il y a longtemps, mais... voilà, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire, on est dans la logique prédictive. Hein, on va pouvoir déterminer, puisque tout ça se tient, évidemment. Vous vous souvenez du soutien... j'ai arrêté de parler de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas, il faudrait trouver un code, mais... Enfin, de qui vous savez au rapport de l'INSERM. Hein, il y a quelques années, il y a eu un rapport de l'INSERM. L'INSERM, ils ont pignon sur rue. Hein, ce n'est pas des farfelus extravagants. Hein. Bon, ils avaient pondu un rapport décrié dans le monde scientifique et décrié par beaucoup de membres de l'INSERM, du reste. Mais ce rapport disait que on pouvait prédire qui deviendrait délinquant. Ah ben, vous vous souvenez ? Bon, dès la maternelle. Dès l'âge de 3 ans, on avait dit. Et puis, dans le rapport, si vous lisez bien, ils vous disent même dès la conception, enfin, dès la grossesse. Bon, voilà, donc, avec un certain nombre de paramètres, nom de parents, mode de vie des parents, à l'hygiène des parents, bon, bref. Donc, on revient à quelque chose qui est très ancien, hein, c'est le 19e siècle, vous savez, c'est pas, bon, tout ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Bon, on avait des gens qui avaient pignon sur rue, d'ailleurs, Lombroso, par exemple, il y a très longtemps, je crois que c'était le 19e siècle aussi, Lombroso, qui était italien, qui était un scientifique, qui expliquait à ses contemporains, il y avait fait toute une théorie d'ailleurs, que la forme de crâne il pouvait déterminer qui deviendrait criminel, qui commettrait telle ou telle chose. Voilà, donc on est dans cette logique. Et on est, à vrai dire, d'abord dans un appauvrissement considérable de la pensée, quoi, il faut le dire. Bon, non, mais je suis désolée de le dire comme ça, mais je veux dire, tout ce qui enrichit déjà la pensée, et voilà, l'intérêt de ce type de choses d'aujourd'hui, l'université des bistrots, etc., tout ce qui enrichit déjà un petit peu, mutuellement, parce qu'enrichissement, c'est mutuel, j'espère que... Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, qu'on pourra discuter, qu'on pourra... Bon. Mais tout ce qui enrichit déjà la pensée, c'est bon à prendre quoi, en ce moment, parce qu'on n'est pas, on prend pas ce chemin-là. Sur des choses beaucoup plus actuelles, hein, l'actualité immédiate, vous savez qu'il est prévu par le gouvernement de supprimer le juge d'instruction. Là, c'est pareil, on nous... vend cette mesure-là, parce que maintenant tout se vend, hein, tout se vend, tout se consomme, bon, donc c'est comme ça qu'ils parlent. On nous vend cette mesure-là en nous disant bah oui, vous vous rendez compte, il y a eu l'affaire d'Outreau, il y a eu ci, il y a eu ça, donc les juges d'instruction sont discrédités. Ah oui, mais c'est intéressant de savoir par quoi on le remplace. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas un fétichisme du juge d'instruction. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Par quoi on remplace cette fonction ? Moi, je suis prête à toutes les réformes. Je ne suis pas du tout satisfaite du système judiciaire actuel, d'une manière générale. Je trouve qu'il est très déséquilibré, au détriment des droits de la défense, en faveur des droits de l'accusation, que toutes les dernières lois ont encore accentué ce déséquilibre. Hein, donc, moi, je ne suis pas du tout satisfaite du système actuel. Donc, moi, dès qu'on me parle d'une réforme, a priori, j'examine. Mais là, ça sent le soufre, si je puis dire, parce que quand vous parlez de supprimer un juge indépendant, parce que juge égale indépendant, ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les vertus. Hein. Attention, ce sont des garanties d'indépendance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des juges qui, par ailleurs, même s'ils ont des garanties d'indépendance, sont serviles par rapport au pouvoir, sont carriéristes, ont des ambitions personnelles qui font passer avant toute chose, etc. Mais ce sont des juges d'instruction et donc des juges indépendants. C'est ça qui est important. C'est une question de principe. Eh bien, remplacer ces juges indépendants par des procureurs, parce que c'est ça qui est prévu, des procureurs qui ne le seront pas, qui ne le sont pas, et dont il n'est pas question de leur donner des garanties d'indépendance, c'est quand même... oui, il faut peut-être y réfléchir à deux fois. Moi, ça m'est égal qu'on revienne à avant Napoléon Ier. Moi, je n'ai pas spécialement d'admiration pour Napoléon Ier. Moi, bon, le juge d'instruction, il se trouve qu'il prend sa source à ce moment-là de l'histoire de France. Mais j'ai, encore une fois, je n'ai pas d'attachement viscéral particulier au juge d'instruction. Mais essayons de voir ensuite les conséquences. Vous voyez, lorsque on vous accusera de telle ou telle chose, plus ou moins grave, etc., il faut vous dire que les juges d'instruction ne s'occupent que des choses les plus graves. Eh bien, vous serez sans doute heureux, ou en qualité d'ailleurs de personne mise en cause, ou en qualité de victime, d'avoir affaire à quelqu'un d'indépendant, comme interlocuteur, vous voyez. Eh bien là, c'est fini. Et pour les choses, encore une fois, les plus graves, les plus complexes, les affaires, suivez mon regard, économiques et financières, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez cette tendance, très lourde aussi, en plus de l'extension continue du champ de la punition, vous avez cette tendance très lourde à la remise en cause, très brutale, hein, pour reprendre la solution brutale, très brutal du principe d'indépendance de la justice. Voilà. Et encore une fois, je voudrais simplement vous convaincre d'une chose, c'est que ça n'est pas le confort des magistrats qui est en cause. Ça n'est pas le confort des magistrats. C'est l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous devant la justice. C'est notre liberté à tous qui se joue là. Voilà. Donc... là encore, on va vers... on est un petit peu à la croisée des chemins. Voilà. On va vers tel ou tel modèle de société. Est-ce qu'on laisse l'indépendance de la justice couler, hein, disparaître. Auquel cas, eh bien, ça nous renvoie très 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 loin dans l'histoire de France, hein, parce que sous couvert de modernité, tout le monde. Maintenant, on parle de réforme. Ben, moi, je parle de contre-réforme. Il y a des choses qui sont des contre-réformes. Je parle pas ça des réformes, moi. Donc, sous couvert de modernité, on voudrait nous faire remonter très loin dans l'histoire, hein, en misant sur le fait que les gens, la plupart des gens, n'ont pas de mémoire. Donc je pense qu'il est important, encore une fois, de prendre la mesure, hein, de ce qui est en train de se passer. Et pour terminer, justement, en termes de mémoire, je voudrais vous citer, mais là aussi vous le retrouverez facilement sur Internet, un article beaucoup plus récent, c'était en octobre 2007, de M. Denis Kessler, qui était ex numéro 2 du MEDEF. Cet article est très, très, très intéressant. Donc, c'est un grand patron, hein, M. Denis Kessler. Et octobre 2007, évidemment, il a soutenu, qui vous savez, la présidentielle. Et il donne à qui vous savez une feuille de route. Franchement, c'est tout à fait limpide. Et il explique dans cette feuille de route très, très courte, hein, c'est-à-dire que c'est 30 lignes, hein, son article. C'est vraiment, il n'y a pas un mot de trop. Hein, où il explique que la priorité pour ce gouvernement, pour le quinquennat, doit être de revenir sur le programme du Conseil national de la résistance. C'est très instructif, très intéressant. Et comme je vous ai dit au commencement de mon propos, que quand même beaucoup de choses ont été bâties avec un socle qu'on pensait solide en 1945, c'est intéressant de savoir qu'il y a des turiféraires comme ça du nouveau régime qui se proposent d'avoir comme feuille de route de revenir sur l'intégralité du Conseil national de la résistance, du programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Je vais arrêter là parce que ça pourra permettre d'échanger.
Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, et bien plus beau, grâce à cette université des bistots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.